Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Bienvenue à un nouvel épisode de Pour moi, la famille. Un balado qui vient à la rencontre de familles et futures familles de la diversité sexuelle et de genre. Aujourd'hui, c'est moi, June. Mona? Ok. Qu'est-ce que je suis seule aujourd'hui? Ça aurait été le fun de le savoir, mais... Ben non, c'est une joke. Je savais que j'allais être tout seul pour ces deux épisodes-là. Ça va nous donner la chance d'être en tête-à-tête pour jaser de parentalité trans et non-binaire. Mais pourquoi que Mona est pas là? Ben, premièrement, parce que je suis trans, mais c'est vraiment pas juste à cause de ça. J'ai un petit punch à vous faire. Dans le prochain épisode, on interview Mona et sa fille, Margot July. C'est pour ça qu'on a décidé que j'allais faire les entrevues en solo pour assurer une continuité, puis pour que Mona puisse bien se concentrer sur son rôle de personne interviewée. Pourquoi consacrer deux épisodes à explorer les réalités des personnes trans et non-binaires? Parce que même s'il y a plusieurs similitudes, c'est important de comprendre que l'expérience des familles trans est différente de celle des familles homoparentales. Une des principales différences, c'est dans le fait que les personnes trans et non-binaires rencontrent souvent des problèmes dans le système de santé, comme quand les médecins les jugent sur leur façon d'exprimer leur genre ou quand ils refusent simplement de leur fournir des soins médicaux affirmatifs. Ça peut vraiment rendre les personnes méfiantes, puis encore plus quand elles veulent fonder leur famille. En discutant avec 5 familles trans et ou non-binaires, j'espère que vous comprendrez mieux les défis auxquels sont confrontées ces familles-là, puis qu'ultimement, le balado va contribuer à créer un environnement où tout le monde, quelle que soit son identité de genre, se sente inclus et respecté. Dans cet épisode-ci, on rencontre 3 familles, celle de Gabby Teagan, celle de Lux et celle de Jessie et Eliane. Mais avant tout, une petite capsule vocabulaire. Encore une fois, on va expliquer quelques termes, mots, concepts en lien avec le thème de l'épisode. Le premier concept, c'est la différence entre la transition sociale, légale et médicale. La transition sociale, comme le mot le dit, c'est une transition au niveau social. Donc c'est auprès de nos proches. Ça peut être dans l'expression de genre, ça peut être dans demander d'utiliser un nouveau pronom, un nouveau prénom. Comme par exemple, couper ses cheveux, changer de vêtements ou laisser allonger ses cheveux, raser sa barbe, plein de trucs comme ça qui changent plutôt notre expression de genre et comment on est perçu dans la sphère sociale. Par exemple, moi en 2015, quand j'ai commencé ma transition sociale, j'ai coupé mes cheveux, j'ai commencé à porter un binder, donc pour aplatir mes seins. J'ai demandé aux gens d'utiliser différents prénoms, j'essayais le nom June que j'ai choisi, le nom Emmanuel, il y en avait plein comme ça. Et j'ai vraiment navigué à travers ça avec mes proches, essayé de voir comment je me sentais. Le deuxième type, c'est la transition médicale. Donc, encore une fois, comme le nom le dit, c'est une transition au niveau médical. C'est quand on commence les démarches pour avoir accès à un traitement hormonal, donc soit de prendre la testostérone ou de prendre des bloqueurs de testostérone avec l'estrogène et de la progestérone, et aussi pour accéder à des chirurgies affirmatives dans le genre. Le troisième type de transition, c'est la transition légale. Donc, comme le mot le dit, c'est en lien avec la sphère légale. Donc, c'est de changer ses papiers d'identification, que ce soit son prénom ou sa mention de genre. Depuis juin 2022, c'est possible de changer sa mention de genre pour un X, donc quand on s'identifie hors de la binarité de genre, M ou F. C'est important de dire que ces différents types de transitions n'ont pas à être faits dans l'ordre. Comme moi, par exemple, j'ai fait ma transition médicale avant ma transition légale parce que je trouvais que c'est beaucoup d'efforts de faire une transition légale, une transition médicale, c'est beaucoup de bureaucratie. Et j'ai décidé de mettre l'énergie sur ma transition médicale qui m'apportait le plus de dysphorie de genre avant de changer mes papiers. Donc pendant un temps, j'avais commencé les hormones, mais j'avais encore des cartes à mon ancien nom puis à mon ancienne mention de genre. Donc c'est ça, pour être une personne trans, on n'est pas obligé de faire aucune de ces transitions-là, ni de les faire dans l'ordre. Le deuxième terme, c'est hétéro-cis-normativité. On en a déjà parlé avant, mais c'est vraiment un mot compliqué. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la norme dans notre société est l'hétérosexualité et le fait d'être cisgenre. Donc, on prend pour acquis dans notre société que tout le monde est hétéro et que tout le monde est cis. Puis justement, un autre petit rappel, cis, c'est cisgenre. Donc, c'est les gens qui s'identifient au genre qui leur a été assigné à la naissance. Par exemple, une personne avec un pénis qui s'identifie comme un homme. Le troisième terme, c'est « passing ». Dans le fond, c'est un terme qui est utilisé entre les personnes trans, puis qui veut dire qu'on est invisible aux yeux du public, alors que nous passons pour cisgenre. Par exemple, on pourrait dire une phrase comme « Depuis que j'ai une petite moustache, à l'épicerie, j'ai un meilleur passing, parce qu'on me dit « monsieur » au lieu de « madame ». Le dernier élément, c'est la mention de genre et l'immigration. Donc, avant juin 2022, les personnes trans et migrantes ne pouvaient pas demander de changement de marqueur de genre avant d'obtenir leur citoyenneté, ce qui peut être un processus qui prend vraiment au minimum 4 à 5 ans. Pour bien exposer le changement, je vais vous lire ce qui est écrit depuis le 17 juin 2022 sur le site du gouvernement du Québec. Donc, pour être admissible à un changement de la mention de sexe figurant à l'acte de naissance, la personne visée par la demande doit être domiciliée au Québec depuis au moins un an. Et si la personne visée par la demande est née au Québec, mais n'habite plus là, elle peut également être admissible à un changement de la mention de sexe dans la mesure où il est démontré qu'une telle modification n'est pas possible dans le pays ou la province de son domicile. Il faut préciser que des changements à la loi comme ça sont possibles grâce à la lutte de groupes communautaires LGBTQ+, qui poussent depuis des années et des années et des années pour qu'il y ait des changements aussi tangibles qui soient faits à la loi. Merci à toutes les personnes qui se sont battues pour que ça soit possible. La première famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est celle de Gabriel et Tegan. Gabriel a donné naissance à leur fille alors qu'il était dans une relation hétérosexuelle avec son ex-conjoint, et ce, avant sa transition. Depuis, la configuration familiale a changé à la suite d'une séparation du couple. Il est aujourd'hui dans une famille recomposée avec un autre homme trans, Tegan. Leur fille dit qu'elle a trois papas et répond que c'est un de ses papas qui l'a porté dans son ventre lorsqu'on lui demande si elle a une maman. J'avais jamais eu la chance de rencontrer Tegan ou Gabriel avant l'entrevue. Par contre, j'avais entendu parler de Gabriel parce qu'il est sur le CA de Transitaouais, mais vraiment sans plus. J'étais vraiment content de me déplacer à Gatineau pour rencontrer une famille avec deux papas trans. On s'est rendu en août 2022, Jesse et moi, le photographe de l'expo, à Gatineau. On a rencontré Gab et Tegan dans leur charmante maison de banlieue qui, de l'extérieur, semblait bien normale, mais qui, à l'intérieur, ressemblait davantage à un aquarium municipal. Il y avait tellement de poissons, la gang. Je suis rentré dans leur chambre et je vous jure, il y avait deux murs remplis d'aquarium. Fait qu'on s'est assis à la table de la cuisine, avec leur fille juste à côté de nous, pour une conversation des plus enrichissantes. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On est présentement à Gatineau, on vient juste de refaire une petite marche pour aller prendre des photos. Et merci beaucoup de m'accueillir chez vous dans votre... On va sûrement entendre des petits bruits autour. Il y a deux chiens, deux chats, plein de poissons. Donc vraiment, on prend l'énergie de la maison avec nous. Donc ça se peut qu'il y ait des petits effets sonores derrière. Donc merci de m'accueillir. Ma première question pour vous, très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter en incluant vos prénoms, vos pronoms et toute autre information que vous trouvez pertinente?
Mon nom, c'est Gabriel, pronom il, lui, et ben, je suis un papa, et j'étais maman avant aussi.
Moi, c'est Tegan, j'utilise le pronom il ou elle.
Comment vous définissez personnellement votre identité de genre?
Moi, je m'identifie comme un homme trans.
Moi, ça a fluctué beaucoup dans le temps. Initialement, non-binaire, maintenant un peu plus vers le masculin, mais toujours un peu identité non-binaire à l'intérieur de moi.
Puis, qui est-ce qui fait partie de votre famille?
Moi, je vais nommer notre enfant, qui a 7 ans aujourd'hui, puis deux chiens, deux chats. Toi, tu peux parler des poissons, si tu veux.
Je vais pas commencer parce qu'on en a pas mal.
Ben, pour moi, toutes les personnes qui m'ont accepté à travers mon parcours, ma transidentité, j'y considère faire partie de ma famille. Puis il y en a plusieurs d'entre eux qui font partie de la gang de bénévoles avec nous autres à Transitaouais. Puis je suis sur le conseil d'administration de Transitaouais. J'ai aidé à fonder l'organisme en 2020. Mm-hmm. Puis ben, avant ça, c'était juste des... Ben, c'était quand même des groupes de soutien que la communauté se retrouvait pour une fois par mois pour parler qu'est-ce qui se passe dans leur vie, tout ça. Fait que ça a commencé de là, puis on est maintenant un organisme, puis on essaie de grandir dans les programmes, les services de la région.
Ma prochaine question, c'est une de mes préférées, c'est est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
J'ai copié, c'est
justement.
Oui, j'ai toujours voulu des enfants. Au début de la vingtaine, je parlais de 2-3 enfants. Puis, ben, lorsque j'ai eu mon enfant, j'ai aussi eu du questionnement identitaire personnellement. Donc, j'ai mis sur pause d'avoir un autre enfant à ce moment-là de ma vie. Pour ce qui est de notre couple, ben, on a des idées d'avoir peut-être un autre enfant dans le futur.
Ouais, j'ai toujours voulu des enfants quand j'étais plus jeune. Tu sais, je voulais avoir la famille parfaite, puis avoir au moins 2-3 enfants. Ça a toujours été mon rêve.
Mais c'est quoi la famille parfaite?
La famille parfaite, c'est ça. Tu sais, la famille qu'on s'idéalise quand on est plus jeune avec le mariage, puis la white picket fence. Mais finalement, la vie a fait en sorte que j'ai eu ma famille parfaite, mais ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais dans la tête à ce moment-là.
On n'a pas de picket fence.
On n'a pas de picket fence.
Voilà.
Mais ouais, c'est la plus belle famille que j'aurais pu demander.
Autant votre transition en tant que personne trans que vos coming out, peu importe lesquels soient-ils. Donc, comment votre désir d'avoir une famille et vos identités LGBTQ+ sont influencées entre elles?
Donc, c'est ça, j'ai eu mon premier enfant lorsque j'étais dans une relation considérée hétérosexuelle, puis j'étais perçue comme une femme dans ce temps-là. Donc, je l'ai eu de façon, on pourrait dire, qu'on nous court traditionnelle. Ensuite, lorsque j'ai commencé mon parcours de transition, j'ai eu beaucoup de questionnements. J'ai lu des livres comme « Where is your mother? » où est-ce que c'est un couple de deux hommes, où est-ce qu'un est trans, puis qui a décidé d'avoir un enfant, naturellement. Puis je me suis posé la question, est-ce que je veux garder de mon utérus pour pouvoir avoir un enfant moi-même plus tard? Sauf que je pense que je suis plus peur du regard de la société envers comme l'image d'un homme qui porte un enfant.
Mm-hmm.
Donc puis j'avais aussi la balance dans tout ça où est-ce que je voulais avoir une autre chirurgie plus tard. Puis j'ai décidé que ça prenait peut-être plus précédence dans ma vie. Donc je sais qu'il y a d'autres façons d'avoir des enfants, puis je regarde plus de ce côté-là.
Puis toi, Tegan, est-ce que c'est un peu... est-ce que ta transition, tes identités LGBT ont influencé ton désir de fermer une famille ou tes anxiétés autour de ça?
Certainement. Donc, avant d'être en relation avec Gab, j'ai...
C'est correct. Autour, il y a les enfants. C'est relax.
Ouais. Donc, j'étais... comment qu'on dit? Engaged. Fiancée. À un homme. Puis moi, j'étais perçue comme femme. Puis finalement, quand j'ai été confrontée avec cette réalité-là, j'ai réalisé à quel point je suis comme malheureux. Donc, ma transition, finalement, j'ai commencé à me questionner. Puis j'ai décidé que porter un enfant, pour moi, c'était pas important. Pour moi, c'est juste la relation que j'ai avec l'enfant. Donc...
Okay.
J'ai toujours voulu porter un enfant, puis soudainement, c'était juste, ça faisait plus partie de mes plans.
Puis en tant que couple, est-ce que vous avez toujours voulu des enfants? Est-ce que c'est une conversation que vous aviez dès le début? Comment vous avez intégré justement le fait que Gabriel était un enfant? Comment ça s'est apporté dans votre relation?
Initialement, quand j'ai commencé à côtoyer Gabriel, donc on s'est rencontrés au travail de Facebook Dating.
Une pendant annonce de Facebook.
Oui, c'est ça, pendant la pandémie. Mais
je t'ai amené au groupe de trans, c'était la première fois qu'on s'est vu.
Pour moi, d'être avec quelqu'un qui avait un enfant, c'est... Moi, j'adore les enfants, au point où est-ce que je m'attache comme immédiatement. Donc, je voulais m'assurer que notre couple était assez solide. Avant de même rencontrer notre enfant.
Toi, comme justement de dater en tant que personne trans, mais en plus avec un enfant, c'est clair que ça peut transporter des stress. Comment qu'on navigue ça? Ça peut être un stress de dater quand on est trans. Mais j'imagine que ça rajoute quelque chose en plus.
Ben, j'ai pas vraiment vu ça comme un stress parce que j'ai pas vécu le dating vraiment avant la transition. Donc, non, moi, j'étais plus straightforward dans mon profil. Je suis trans, je suis un parent. Si t'acceptes pas ça, passe au prochain.
J'adore. Comment être une personne trans a influencé votre parentalité?
Ça a influencé à beaucoup de niveaux. Je peux dire quelques anecdotes, comme avant, j'étais maman, puis là, quand j'ai commencé la testostérone en 2017, puis que mon enfant était dans un château gonflable, puis sautait, puis disait « Maman, maman, maman ». Puis là, ben là, les gens autour voyaient l'ambiguïté de la situation. T'es pas sûr si j'étais maman ou papa, peu importe. J'ai commencé à me sentir un petit peu moins confortable avec le maman, puis j'ai décidé d'aller plus vers le dada. Je voulais pas avoir papa parce qu'il y avait déjà un papa dans sa vie, puis je voulais pas que ce soit trop confusing, excuse. Fait que c'est ça, on a switché à dada, puis ça s'est passé bien. Elle avait 2 ans, donc maman dada pendant 2 semaines, puis après ça c'était juste dada. Quoi d'autre?
Je pense qu'une des plus grandes façons que ça a influencé, c'est la façon qu'on enseigne à notre enfant l'idée de genre. Ben, on essaie de décortiquer ça puis de pas genrer les choses. Mais c'est pas toujours évident dans une société qui est tellement genrée. Mais c'est ça que les gars, ça peut jouer avec des Barbies, puis les filles, ça peut être fort. Puis c'est ça.
Ouais, ou de juste naviguer son propre genre, c'est des choses qui sont absolument super. Qu'on se rend compte, même si on est des personnes trans, ben, on n'a pas nécessairement toute déconstruction à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être, des fois, mm-hmm. ça peut être confrontant, peut-être, d'avoir mm-hmm. un enfant, d'être comme. Oh.
Ouais, ben. Je pense que juste voir mon enfant jouer avec des Barbies depuis le jeune âge, puis dans ce temps-là, ben, je dirais, t'as signé mâle à la naissance. Donc, là, tout le monde, ben, voyait jouer avec des Barbies. Ou... Mais moi, je trouvais ça normal, parce que c'était juste des jouets.
Mm-hmm.
Donc, cette année, elle a décidé de s'affirmer dans son genre, mm-hmm. puis demandait comme de porter des robes à l'école.
Mm-hmm.
Mais il fallait qu'on aille discuter avec l'école avant que ça se passe, ouais. parce que, dans le fond, on s'en allait plus vers une transition de genre.
Mm-hmm.
Donc, on s'est équipé un peu à aller voir une sexologue pour pouvoir savoir comment naviguer le monde de l'éducation, comment naviguer un peu en société avec la famille, les jugements, tout ça. Parce que ce qu'on avait peur, c'était d'être accusé d'influencer notre enfant mm-hmm. dans ses choix.
Mm-hmm.
Mais comme on veut juste laisser la place de la créativité dans le genre.
Mm-hmm. On veut juste le mieux pour notre enfant, puis... Au début, ça a été un peu plus difficile avec tout ce qui se passe à l'extérieur, puis de se faire surtout dire, tu as influencé ton enfant, puis toutes ces choses-là, puis finalement faire comme, hey, je peux même pas l'influencer à manger son brocoli, là.
C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Puis, vous vivez à Gatineau, de naviguer le système de santé, naviguer le système scolaire en tant que papa, que parent trans, mm. avec un enfant créatif dans le genre. Est-ce que vous avez, comment vous vivez ça, en fait?
Pour le système scolaire, ça s'est bien passé parce qu'on a référé l'école à parler avec l'organisme Jeunesse IDEM.
Mm-hmm.
Puis Jeunesse IDEM, nous autres, supporte la communauté entre 7 ans et 35 ans. Donc, l'école a pu les appeler puis être outillée avant qu'on puisse avoir notre rencontre parent-école pour pouvoir établir le plan de match pour cette transition. Donc, écoute, le lendemain de cette rencontre-là, t'es contente de pouvoir porter enfin sa robe à l'école.
Mm-hmm.
Yes. Par rapport à toi aussi, par rapport au le fait que tu sois trans à l'école, comment ça a été perçu? Comment les parents, je veux dire les professeurs, mm. les formulaires, tout ça, comment...
Ouais, ben, les formulaires, j'ai aidé à faire changer quelque chose dans l'école parce que lorsque j'ai inscrit mon enfant à l'école, j'avais un certificat de naissance que je venais juste de faire mettre à jour qui disait père et père. Donc,
ouais.
c'est quand même assez nouveau pour eux de pas avoir strictement mère-père.
Ouais.
À main, j'ai décidé de biffer tous les mots mère sur le formulaire pour montrer mon point que comme ça n'a pas d'allure. Puis mm-hmm. j'ai probablement biffé à 10-15 places.
Ouais.
Ça rentre 2 pages.
D'après vous, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour les personnes trans dans créer une famille, de faire un projet familial? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels on ne penserait pas nécessairement?
Je pense qu'il y a quand même une bonne éducation à avoir côté comme Si je regarde des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir des enfants plus tard, mais qui ne savent pas nécessairement de quelle façon ils veulent s'y prendre, ben, si tu commences des hormones et que ça va t'empêcher de faire des enfants biologiquement, ben, c'est quelque chose d'important à savoir, je pense, avant de commencer les hormones. Mais il n'y a pas juste une façon biologique de faire des familles. Faut qu'on soit au courant de toutes les options qui sont possibles, que ce soit parent porteur ou d'adoption.
Coparentalité, il y a plein d'options. Ma dernière question pour vous, ça va être, est-ce que vous avez des conseils pour les futurs parents trans et non-binaires? c'est une grosse question.
Oui, ouais. C'est une grosse question. C'est peut-être juste pas se mettre des barrières. Si c'est quelque chose que tu veux de croire en soi puis tes capacités, puis c'est, je sais qu'une de mes des inquiétudes que j'entends souvent dans la communauté, c'est comment que le monde va me regarder, surtout quand on fait une transition, puis tu sais, faire confiance à soi, puis souvent quand on se lance dans ce bateau là, ça navigue tout seul presque.
Ben, suivez votre cœur, puis le regard des autres, ça vous appartient pas. Pour moi, la famille, c'est la vie.
Merci énormément à Gab et à Tigun de m'avoir ouvert les portes de leur maison et de m'avoir partagé leur histoire. Ça m'a vraiment touché. Ce que j'ai retenu, c'est comment des grands moments de la vie, comme avoir un enfant ou se fiancer, peut vraiment venir bouger les fondations de notre identité. Les deux, Gab, de son côté, qui a eu un enfant, puis a réalisé qu'il avait besoin de transitionner, puis Tegan aussi, quand il s'est fiancé dans une relation hétérosexuelle, puis qu'il s'est rendu compte que c'est pas ça qu'il avait besoin. Les deux, c'était dans des grands moments de leur vie qui d'habitude ont un gros impact, puis c'est vraiment venu ébranler les fondations de leur identité. L'autre affaire que je retiens, c'est que ces deux-là, c'est vraiment une preuve que ça se peut de trouver l'amour sur Facebook Dating. La deuxième famille, c'est celle de Lux. Lux a eu ses enfants avant son coming out dans une relation perçue comme hétéro. Même si elle s'était toujours questionnée sur son identité de genre, Lux a décidé d'avoir des enfants avec l'autre parent, puisque elle percevait son corps comme étant le grand bateau qui pouvait porter ses bébés. À l'adolescence des enfants, les deux parents ont fait leur coming out trans, Lux comme personne non-binaire, et l'autre parent des enfants comme femme trans. Avant l'entrevue, j'avais jamais rencontré Lux. C'est MD que vous avez rencontré à l'épisode précédent qui m'a recommandé Lux parce que c'est son sa Barbie, puis aussi parce qu'MD croyait que ça allait faire une très bonne entrevue. Donc je me suis présenté chez Lux pour l'entrevue en sachant seulement que Yael était un super barbier. J'ai fait la connaissance de Lux en août 2022 à Québec. Après m'être un peu égaré dans le quartier de Saint-Sauveur, je suis arrivé quelques minutes en retard chez Lux. On s'est installé dans sa cour intérieure où il y avait des chats qui se promenaient puis une douce brise qui nous a maintenus au frais. Même si ça sonne pas vraiment super au micro, j'espère que vous allez réussir à vous imaginer transporté dans un doux après-midi ensoleillé avec une brise légère qui fait gentiment tomber les feuilles. Mais pour de vrai, j'ai fait de mon mieux pour que ça sonne bien et ça vaut la peine de l'écouter. Bonne écoute! Merci beaucoup de nous accueillir dans ta cour intérieure.
Ça fait plaisir.
On est à Québec en ce moment, dans le quartier de...
Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur.
Oui.
Et on a assis avec nous Lux.
Bonjour.
Est-ce que j'ai déjà pété le punch, mais tu veux-tu te présenter? Qu'est-ce que c'est ton prénom, tes pronoms, puis comment tu définis ton identité de genre?
Oh.
Grosse question.
Oh. Si j'oublie des aspects à la question à peinture, tu peux me le rappeler.
Okay? 100%.
Ça marche. Donc, moi, c'est Lux et je suis parent de deux enfants. Mon identité de genre est un peu fluide, mais généralement plus masculine, malgré mon expression de genre qui passe vraiment plus du côté féminin de la force, là. Mais c'est ça, il y a une nuance entre les deux. Donc, puis c'est ça, dans le fond, mon rôle parental se rapproche plus de celui d'un père à bien des égards.
Et tes pronoms?
Oh, mes pronoms, c'est tout mélangé. Je suis la personne avec qui il fait bon de se pratiquer à utiliser une parole inclusive.
Qui est-ce qui fait partie de ta famille?
Qui fait partie de ma famille?
Oui, au sens large du terme. Tu n'es pas obligé de leur donner leur vrai nom, tu peux juste les nommer comme il te semble.
C'est sûr que là, il y a mes deux enfants, mon ado de 14 ans, puis mon autre ado de 13 ans. Puis il y a aussi la personne qu'on appelle parent 2, qui est une personne trans féminine depuis quelques années. Et nous, on est un couple séparé. On fonctionne bien en tant que coparents. Et donc, ça, c'est comme la cellule familiale, si on veut, qu'il y a comme deux appartements, proche à proche quand même, dans le quartier. Puis le reste, ben, c'est la famille choisie, qui est tout aussi importante et qui remplit un rôle différent que la famille avec les liens de sang, mettons. Parce que moi, je viens d'une autre région, je viens d'Abitibi à la base. Donc, mon berceau familial, si on veut, est là-bas encore en grande partie. Mais la famille choisie, c'est des gens du milieu artistique dans lequel je travaille aussi. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont créés à travers ça.
Est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
C'est une excellente question parce que ça va pas de soi. Souvent, c'est attendu qu'une personne assignée femme, bon, quand est-ce que tu vas avoir des enfants ou quelque chose? Mais moi, je suis à l'aise avec les enfants. J'ai toujours été portée vers ça. T'sais, mettons, aller garder des petits, mettons, mon adolescence, c'était ça. Fait que pour moi, c'était comme une espèce de... C'est quelque chose de naturel, mettons. Mais en même temps, il y avait le questionnement à savoir, mais tu sais, en tant que personne assignée femme, ça risque d'hypothéquer un peu ton futur. Pense-y, tu sais, si tu veux écrire, faire une carrière artistique, ça sera pas facilitant d'avoir des enfants. Prends-en conscience, tu sais. Mais en même temps, à ce moment-là, à l'époque où les enfants sont nés, moi, je jouais encore le rôle d'une personne femme, cis, hétéro. Mais c'était un rôle. Donc, ça a juste été comme la continuité d'un rôle que de devenir parent. D'où l'espèce de... Quand le bébé était là, dans mes bras, là, c'est comme, OK, là, it's real. C'est pas juste un rôle, là. Puis c'est là que, dans ma tête, je suis devenue un peu un papa. Parce que le rôle de mère, comme on le connaît, ne me convenait pas.
C'était confortable. Tu peux-tu me parler un peu de comment tu as expérimenté ton identité de genre, tes questionnements, puis comment ça a influencé ta parentalité?
Ben, moi, c'est certain que je me suis toujours questionnée sur mon genre depuis vraiment très, très longtemps. C'est sûr qu'au début, il y avait toujours l'espèce de faire comme les parents disent, tu sais. Dans mon garde-robe, il y avait des robes, tu sais. Donc, c'est ça que je portais. Puis, je n'étais pas nécessairement un enfant rebelle. J'écoutais les consignes. Mais c'est ça, ça a été un parcours de découverte, de réflexion, de travail sur soi, d'observation.
Dans laquelle ta parentalité faisait entièrement partie.
Oui, exact. Au quotidien, parce que les enfants, eux autres, ils n'attendent pas ton questionnement.
Non, c'est ça.
C'est vite, là. C'est-tu maman ou c'est papa, là? Genre, décide, là.
Aujourd'hui, là.
C'est ça. Fait que là, que tu aies l'information ou pas, eux autres, ça leur prend une réponse.
Quand tu naviguais justement le fait d'être enceinte, tout ça, c'est souvent quelque chose d'extrêmement genré. Comment tu t'es sentie de naviguer le système de tout ce qui est la maternité?
Comme une perte de contrôle. Comme une perte d'autonomie. ce que je voyais, c'était que tant que le parent porte la vie, mm-hmm. et qui est important. Est-ce que ça tout va bien, la nutritionniste, gna gna gna, puis tu sais, t'es monitoré, il te filme la bédaine, il te touche, il te palpe. Puis toi, là, maman, comment ça va? Puis le personnel infirmier, maman. Puis l'autre personne, puis papa, ouais. la maman, papa. En même temps, c'est comme, ça devient quasiment un numéro, c'est impersonnel, parce que ces gens-là qui travaillent en milieu hospitalier, je veux dire, il y en a comme 200, là.
Ben, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est comme maman dans un coin, papa dans un coin, tout le monde est heureux, ouais. ils ont mangé, ça va, on passe à l'autre, tu sais. Mais pour une personne queer, ça confronte un peu.
Ouais.
Puis je pense que le fait qu'à ce moment-là, j'étais comme dans mon rôle de parent, ça m'a mm-hmm. peut-être protégée de certaines ouais. blessures. Parce que si ça m'arrivait aujourd'hui, je serais probablement plus... tout le temps en train de leur dire « Non, parents, parents, parents. » Mais ça viendrait gossant pour tout le monde. Fait que là, j'étais, en fait, je faisais mon rôle, ouais. j'étais dans ma case et que tout le monde était confortable. Après ça, une fois que le bébé est né, oh que le changement est drastique.
Oui.
Parce que là, la maman est comme vraiment mise de côté, je dirais. Là.
Okay.
Puis là, les soins sont
sur l'enfant,
ce qui est on s'entend normal.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est pas ça le point. Le point est que il y a comme un travail à faire mm-hmm. que je m'attendais pas à faire. Du genre que là, tu te fais cajoler, là.
Ouais.
Maman.
Ouais.
Puis à un moment donné, maman devient comme un objet qui nourrit le bébé, mettons.
Ouais.
Donc là, c'est comme, hey, je suis pas confortable.
Ouais.
Je ne suis pas confortable dans ce rôle-là. Hey, je suis pas bien profondément.
Je veux dire, tu l'as vécu en tant que personne non-binaire, puis ça rajoute une couche, mais c'est ouais. quelque chose de difficile à vivre pour tous les parents
exact.
Qui portent et tous les parents aussi qui ne portent pas.
C'est ça. Donc, tu sais, on peut dire là-dessus que j'ai comme eu le vécu extérieur,
ouais.
tu sais, femme, vraiment
ouais.
beaucoup, là.
Ouais.
Puis après ça, c'était comme, ben les questionnements viennent après.
C'était pour te protéger. C'était pas le temps de le faire.
C'est ça, exact. C'était comme, OK, là, dans le moment, ça semble être la meilleure chose.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme un peu de la survie tout le temps.
Mm-hmm.
Tu sais, puis une fois que les enfants sont plus vieux, mais là, t'as plus de temps pour réfléchir à mm-hmm. qui tu es en tant qu'être humain. Puis ça s'est encore plus précisé quand les enfants sont partis à l'école. Ça a comme fait, hey, là, j'ai du temps, là.
Mm-hmm.
Ouh, là, ça se met à travailler, là, tu sais.
Je me demandais comment, pour toi, être une personne non-binaire, ça a influencé comment tes parents?
Ça me donne un avantage,
ouais.
je pense, parce que le fait d'avoir eu ce parcours-là, ça m'a probablement ouvert les yeux sur d'autres réalités.
Mm-hmm.
Donc, si quelqu'un a à en parler, tu sais, mettons les enfants ont des questions, là, si moi j'ai pas la réponse, je suis capable de les diriger vers mm-hmm. des personnes ressources et autres. Mais je pense que c'est ça facilite la communication, la discussion avec des fois. En plus des ados, des fois, c'est pas évident parce ouais. qu'ils ont comme des gros questionnements, puis mm-hmm. ça prend une réponse vite, encore une fois.
Mm-hmm.
Fait que je pense que le fait d'avoir recherché, ça me donne des outils.
Mm-hmm.
Tu sais, même la phrase qu'on entend souvent, ça va les. Ça va les contaminer.
Ça va les contaminer.
Tu sais,
oui.
des affaires de même, des fois, les gens.
Ouais.
Tu sais, ça va en faire des. Mm, tu sais, mm-hmm. fait que là, on est comme. So what?
Ouais, c'est ça.
Tu sais,
hein?
un.
ouais.
Puis deux, ça va peut-être leur donner la chance de faire le chemin un peu plus rapidement, puis un peu moins dans la douleur, si jamais mm-hmm. c'est ça leur chemin. Tu sais, donc, je trouve les enfants libres.
Mm-hmm.
Je trouve qu'ils ont plus de liberté que bien d'autres.
Ouais.
Puis, ils me le disent.
Qu'ils sentent libres.
Et chanceux.
Et chanceux.
Ça fait tellement du bien au cœur.
Mais c'est vrai que ça touche beaucoup. Et de naviguer, être un parent non-binaire, parent deux, d'être une personne transféminine, comment on est avec ça quand on a des enfants dans le milieu scolaire, dans le milieu médical? Comment qu'on gère tout ça? Parce que le milieu médical et scolaire est loin d'être ouvert. Mais pas ouvert, mais je dirais adapté à nos réalités.
C'est vraiment ça le bon mot. C'est une question d'adaptation, puis je pense que c'est en train de se faire.
Mm-hmm.
Parce que, si mettons, les enfants, ils ont rentré dans le système scolaire à peu près en 2011-12-ish. Mm-hmm. Puis c'était vraiment papa, maman. Puis, tu sais, les formulaires étaient vraiment rigides, mm-hmm. tu sais. Puis, à ce moment-là, nous, notre démarche n'était pas autant solide et entamée. Et, tu sais, on n'avait pas encore les outils non plus.
Comme on a dit, vous n'étiez pas nécessairement solide dans vos identités, donc c'était difficile de se battre pour être solide.
C'est ça, quand tu n'as pas les outils, là, c'est difficile. Donc, tu es comme... Puis, en plus, moi, je suis le genre de personne qui va écouter, hein. Mm-hmm. Comme, ah oui, c'est ça la cause, bon, ben ça va être ça, tu sais, mm-hmm. encore une fois. Donc, l'école me met une robe, je mets la robe, tu sais. Ouais. C'est ça le rôle qui est attendu. Je suis allée à... Ma fille faisait le grand saut à l'école secondaire et le formulaire, c'était parent 1 et parent 2. J'étais comme...
J'aurais pas à jouer un rôle que je veux pas jouer.
Ça, c'est le fun. Fait que là, j'ai marqué... Mon nom administratif, j'ai marqué entre parenthèses mon nom choisi.
En plus.
Du côté de l'autre parent, même chose. Puis la personne qui a rempli l'a écrit dans ses papiers aussi en disant « Ça, c'est pour mes autres collègues, puis je vais l'entourer en rose. » Comme ça, ils pourront pas dire que c'était pas assez clair. Oh là, on est rendu plus loin, là!
C'est toujours très... Moi, en tant que personne trans, ce que je me rends compte, c'est à quel point c'est pas le système qui change chez les individus.
Oui.
Et ça, c'est autant les individus trans et non-binaires que les gens, en fait, que les secrétaires, que les fonctionnaires qui vont faire un effort personnel.
Oui.
Et ça va changer éventuellement le système, en fait.
Exact. Parce que le système a été conçu à une autre époque par des gens d'une autre époque.
Oui.
Tu sais, avec des considérations de l'ancien temps. Tu sais. Donc, je trouve que ça se modernise, si on veut, tu sais. Oui, puis ça s'adapte aux êtres qui fréquentent les lieux, tu sais. Donc, c'est super beau à voir, là. Puis je voyais même que ma fille était comme... Tu sais, elle avait un petit hochement de tête positif, là, dans le sens que, pour elle, c'était sécuritaire.
Je vais te poser une autre question, qui va être la question finale.
Okay.
Qui est, est-ce que tu as des conseils pour les futures familles ou les futurs parents non-binaires?
Oh! Chercher des endroits où ils se sentent bien.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a des endroits, dans, mettons à Québec, à Montréal, il y en a. En région, c'est encore une fois à construire, mais c'est comme ça, s'il n'y en a pas dans l'espace public, un sanctuaire, que ce soit dans sa maison, dans sa cour, n'importe quoi, là, un coin dans la chambre, tu sais, qui fait comme, là, ici, je suis moi, puis il n'y a personne qui peut attaquer ça, tu sais. C'est comme, c'est une espèce de petite bulle, là, parce que quand on est parent, là, on n'a plus beaucoup d'espace privé, on pourrait dire, mais ce serait vraiment de garder cette petite bulle-là pour pas oublier qui on est en tant qu'individu, même si notre rôle change pendant une période donnée. Donc, ça serait vraiment ça, qu'il y ait un petit sanctuaire avec des petits mots qui te rappellent comme tu es qui, puis pour éviter de se perdre. Puis si on sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va, tu sais, une espèce d'ancrage, tu sais, ça serait ça.
Pour moi, la famille, c'est un filet de sécurité avec toutes les petites mains tendues vers toi, au cas où.
Merci beaucoup à Lux pour cette entrevue. Ce que j'ai appris, c'est que les enfants y attendent pas. Que tu prennes le temps de démêler c'est quoi ton identité de genre et veux une réponse tout de suite. C'est clair que ça peut changer puis être en mouvance, mais ils ont besoin d'un mot tout de suite. C'est-tu papa ou maman? Puis je crois que ça montre comment l'identité de genre et la parentalité sont vraiment connectées, puis je trouve ça vraiment beau. La troisième et dernière famille, c'est celle de Eliane et Jessie. C'est les fiers parents de deux enfants. La première, ils l'ont eue à l'aide de la fécondation in vitro et d'un don d'ovules entre conjoints et conjointes. Pour la plus jeune, l'insémination maison avec l'aide d'un ami qui a accepté d'être le donneur. C'est Eliane qui a porté les deux enfants et c'est après la naissance de leur aîné que Jessie a fait son coming out en tant qu'homme trans. Ça lui a permis de vivre sa parentalité de manière authentique. D'où est-ce que je le connais? Ben Jessie, c'est le photographe de l'expo associé à ce podcast. Donc j'ai eu la chance de faire sa connaissance de long en large pendant l'été 2022. Parce que sur les 34 familles qu'on a interviewées pour le podcast, 31 ont été photographiées. Alors quand on visitait du monde chez eux, il y avait aussi Jessie avec nous qui prenait des photos des familles dans leur environnement. Les photos ont ensuite été regroupées pour en faire une expo interactive accompagnée d'extraits du podcast que vous écoutez en ce moment. L'expo est actuellement en tournée à travers le Québec, puis notre prochain arrêt est prévu pour tout le mois de novembre 2023 à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Pour savoir si l'expo passera près de chez vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est fini pour la pub. De retour à l'entrevue de Jessie et Eliane. Je me suis présenté à Pointe-aux-Trembles, un jour frisquet de novembre 2022. Mon matériel audio sous les bras, prêt à en apprendre davantage sur cette merveilleuse famille. Je me suis fait accueillir par trois chats, un chien, leur plus jeune enfant, et Jessie et Eliane, qui étaient prêts à s'embarquer dans une belle conversation touchante. Je tiens à vous dire qu'il sera mention d'envie suicidaire dans cette entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Pointe-aux-Trembles et de venir rencontrer deux personnes incroyables. Donc, je vais vous commencer par vous demander de vous présenter. Donc, votre prénom, votre pronom.
Moi, je suis c'est Jessie, pronom il.
Bonjour, je m'appelle Eliane. J'utilise les pronoms elle, yel, puis les accords au féminin.
Comme c'est l'épisode sur les réalités trans, est-ce que vous voulez me présenter un peu votre identité de genre?
Ben, moi, je suis une personne non-binaire. Plus clairement, je dirais que je me reconnais pas complètement dans l'identité de genre femme. Je serais comme à cheval entre femme puis genderfuck, mettons.
si on
dit ça comme ça. C'est pas si clair que ça dans ma tête. Ce qui est clair, par contre, c'est que je comprends pas ça, cette binarité homme-femme-là, puis ça résonne pas en moi.
Mais moi, je suis un homme trans, en sachant que je me sens plus hybride que homme trans en tant que tel. Plus hybride.
T'es un modèle hybride.
Moi, je dirais hybride, oui.
j'adore. Donc, qui fait partie de votre famille?
Ben, je pense au départ, il y a...
Vous deux.
Nous deux. Puis, on a deux enfants. Mm-hmm. Donc, Yannick qui a 7 ans et demi et Milan qui a 4 ans et demi.
Milan qui est en bas, donc ça se peut qu'un moment donné, on ait un enfant qui se pointe. Ça se peut aussi qu'elle s'endorme, on ne sait pas.
On ne sait pas.
C'est
surprise.
C'est exactement. Donc, Yannick et Milan, et vous deux, Eliane et Jessie.
Puis, on a un chien puis trois chats.
Ben, c'est ça que j'allais dire.
Ouais.
Est-ce que vous voulez faire le tour des prénoms des animaux?
Ben, Chica, notre chien. Mm-hmm.
C'est notre premier bébé.
Elle a 13 ans aujourd'hui. Puis on a trois chats. Mon préféré, c'est Lego. Ensuite, il y a Bruno, puis il y a Pantelémon.
Donc, ça se peut que ça aussi, il y a des bruits que vous pouvez deviner qui arrivent. Donc, la première question, c'est, est-ce que vous avez toujours voulu des enfants? Je vais commencer avec Jessie.
Non.
Non? Veux-tu me parler un peu de c'était quoi ton rapport à être un parent dans ta vie?
Ben, je pense que moi, j'ai une sœur jumelle et on était les derniers de la famille. Donc, j'ai jamais eu d'enfants dans mon entourage. Le premier bébé que j'ai eu dans mes bras, je pense que j'avais 17 ans. Puis j'ai toujours été inconfortable avec les enfants, toujours très mal à l'aise, genre comme si je les comprenais pas, c'était une espèce à part. Puis après, je me suis dit que j'avais bien trop de problèmes dans ma tête ou dans la vie pour avoir des enfants. Puis quand il y avait trop de monde sur la planète, et puis que, enfin c'était ça, je pense qu'il y avait trop de personnes qui souffrent pour en rajouter d'autres. Puis que moi, je me suis toujours dit, on m'a imposé la vie, je voulais pas l'imposer.
Ben, je pense que t'étais souffrant aussi.
Oui, probablement. Après, j'ai rencontré Eliane, mais je pense la première soirée où on a parlé ensemble, une de ses premières questions, c'était « Est-ce que tu veux des enfants ?» J'ai dit non, elle a fait « Ah !»
Justement, toi, Eliane, est-ce que tu as toujours voulu des enfants ?
Ouais, c'est ça
que j'entends, là.
Du plus loin que je me rappelle, moi, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants.
OK.
Puis j'ai toujours voulu des enfants quand j'ai senti que peut-être j'étais lesbienne parce que j'avais le goût d'être Ovila quand Ovila puis Emily se prennent un fille de Caleb. Là. Tout de suite, je me suis dit, oh non, peut-être que ça va vouloir dire que je pourrais pas avoir d'enfants. Puis là, c'était bien stressant. Puis je me suis mis à lire sur le mot parentalité. Ah ouais. Le mot existait à peine.
C'est drôle parce que ma prochaine question, c'est ça. C'est est-ce que votre identité de genre ou votre sexualité a influencé votre parentalité?
Ben oui, ben en fait... Ça m'a donné peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants parce que je me suis dit, ah, peut-être que je suis lesbienne. Puis, tu sais, c'était dans les années 90. C'était pas. On n'avait même pas le droit d'avoir deux parents du même sexe sur le certificat de naissance, pas accès à des services de fertilité. Le terme homoparentalité est une espèce de mot obscur qui appartenait à la communauté LGBTQ+, qui n'était pas nulle part. J'avais pas d'Internet. Je pouvais pas commencer à googler, genre.
C'est ça, ouais.
Finalement, tu sais, au cégep, j'ai compris que ça existait, qu'il y avait une communauté et tout ça.
Il y a beaucoup de personnes LGBT qui ont le sentiment d'avoir fait un deuil de parentalité. T'as-tu le feeling d'avoir fait un deuil, peut-être? T'as toujours.
Ah non, moi, j'étais comme, je vais trouver comment.
C'est ça, ouais, plus cette vibe-là.
Ouais.
Puis toi, Jessie, est-ce que.
Ben, c'est plus la peur de pas être adéquat, je pense, de pas être à la hauteur d'être parent. Ben, c'est plus ça. C'est si je me disais que j'avais tous les outils, peut-être que ça aurait pas été un non catégorique. Mais après ça, ça n'a pas été un non catégorique non plus. Là.
Non, parce que tu es embarqué avec moi.
Oui, mais parce que après ça, je lui ai dit laisse-moi régler les choses que j'ai à régler. Puis.
Oui, il y a plein de choses qui se sont passées dans ta vie avant qu'on embarque sur le projet de faire des enfants.
Comme une transition, genre.
Non.
Non, même pas.
Même pas.
En fait, on a eu notre premier enfant en tant que famille homoparentale et notre deuxième enfant.
Comme famille trans.
T'as dû voir une différence entre ces deux parcours-là?
Oui, mais c'est oui. Mais c'est plus le regard des gens aussi. Comme j'ai dit, moi, il a fallu que je fasse le deuil aussi de notre famille homoparentale parce que ça n'a pas été si facile. T'sais, on est rendu invisible et dans le deuxième parcours, ça a été ça aussi.
Est-ce que ça a été difficile pour toi, Jessie, de faire ton coming out, de commencer la transition avec un enfant?
Au début, oui. En fait, au début, c'est quand le passing n'est pas là.
Ouais.
Tu sais, quand on emmène... je viens chercher Yannick à la garderie, puis que les autres enfants disent « Ah, ta maman est là! » Tu sais, c'est des choses comme ça qui, au début... Mais après ça, c'est un chemin qui est obligatoire, là. Mais il est plus difficile parce que tu peux pas... nier ce qui se passe. Tu sais, tu peux pas. Je sais pas si tu comprends.
Moi,
ce que
moi
je
comprends
dire.
Très bien. Je l'ai vécu.
T'es obligé. C'est comme on dit, à partir du moment où t'as des enfants, il faut que tu assumes les choix que tu fais, puis la famille que tu es. Si tu l'assumes pas, ton enfant, il peut pas.
Ouais. Puis est-ce que t'as eu un doute? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui était comme, ah, je préfère pas transitionner, puis attendre que les enfants soient plus vieux?
C'était une question de vie ou de mort.
Ouais.
Quand on a. J'ai débuté ma transition, c'était soit je la débute, soit je meurs.
Fait qu'à ce moment-là... Tu t'es rendu au point de brisure.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on parle souvent dans le milieu trans, où est-ce que des années de douleur, et là, on est rendu au point où est-ce qu'on comprend que c'est ça qu'il nous faut, puis il nous faut maintenant. Puis, personnellement, en tant que personne qui n'a pas d'enfant, puis d'avoir fait cette transition-là aussi, les premières années sont très difficiles, parce que tu sais qu'est-ce que tu veux, mais tu sais que tu peux pas l'atteindre demain.
Mais j'ai eu la chance d'avoir une transition rapide.
Ouais.
Mais c'est pour ça que j'avais quitté mon emploi aussi. Je voulais pas me faire appeler madame. Tu sais, je travaillais ici à la clientèle, fait que je voulais pas me faire appeler madame sans cesse. Mais c'est ça, c'est que tu vas à la pharmacie avec ton enfant, puis on t'appelle madame, puis ton enfant te regarde et dit « Pourquoi il t'appelle madame? » Tu sais, puis elle de dire « C'est papa, tu sais. » C'est un regard, les gens, ils te regardent, genre...
Mais justement, c'est ça comme l'impact de la transition légale sur la parentalité. Ça doit être quand même lourd parce que tu as été reconnue comme la mère de Yannick.
Mais je suis encore.
Et demi-langue.
Ouais. Et demi-langue, ouais.
Ouais. Il n'y avait même pas sa citoyenneté, puis ça vient de changer. Là, avant, il ne pouvait pas changer ses mentions de genre, ouais. Parce qu'il avait juste sa résidence permanente.
Ben, c'est ça. Maintenant, là, parce qu'en fait, au fédéral, je suis masculin. Là, il faut que je le fasse au provincial. Puis à l'époque où j'ai voulu faire les démarches, on ne pouvait pas. Mais là, maintenant, on peut. Ils te demandent si tu veux changer les actes de naissance de tes enfants. J'ai imprimé le formulaire, puis hier, je l'ai vu. J'ai fait « Ah ouais, super ». Donc là, je vais pouvoir...
Justement, on va passer à votre question. Quand vous naviguez les services avec vos enfants, donc les services médicaux, scolaires, comment ça influence justement d'avoir des papiers qui ne sont pas nécessairement à jour ou juste d'être une personne trans?
C'est lorsque... Moi, ça me stresse quand Eliane me demande d'aller à l'urgence avec mon enfant ou d'aller à un rendez-vous médical avec des gens, des professionnels que je ne connais pas. Ça me stresse toujours parce que en tant que père... Ben, on minimise les informations que je donne, comme si les informations que je vais donner sont pas vraiment justes ou que vous appellerez, on demandera à maman d'appeler, tu sais, si elle a des questions parce qu'elle le médecin ou le se dit que je ne comprends rien de ce qu'on me demande parce qu'on parle de mon enfant.
Il est moins compétent en santé parce qu'il est un homme. Puis même si on essaie, tu sais, moi, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, avant, on était deux mamans, fait que la pharmacie appelait également les deux personnes, les médecins aussi. Depuis, c'est toujours moi qu'on appelle systématiquement. C'est Jessie qui renouvelle les médicaments. Moi, je suis en train d'enseigner au cégep. Genre, j'ai aucune idée qu'à renouveler des médicaments. Et je reçois un message sur mon téléphone concernant le renouvellement des médicaments. Vous êtes la maman de nanana. Fait que là, je suis comme, mais je sais pas. C'est pas moi qui ai fait le renouvellement. Ah non? J'ai dit, ben non, là, c'est mon conjoint. Il regarde dans le dossier, puis il voit maman, puis c'est moi qui appelle. Jessie prend des rendez-vous téléphoniques avec des médecins, des fois, pour les enfants.
Ouais.
Parce que pendant la pandémie, c'était téléphonique. Le médecin appelait moi. Fait qu'il a manqué des rendez-vous parce que moi, je n'étais pas disponible. Oui, c'est ça.
Wow.
Et même si c'était Jessie qui avait pris rendez-vous, il appelle la maman dans le dossier. Fait que ça, c'est comme une espèce de... Ouais.
C'est pas d'être une personne trans, c'est de rentrer dans une autre réalité.
Ouais, on n'y avait pas pensé.
Commencer à devenir hétéroparental, tu sais, alors que... Fait que c'est comme si soudainement, je me trouve pris dans ce rapport de pouvoir inégalitaire que j'avais l'impression de fuir en étant une famille homoparentale et que là, en tant que famille transparentale, ben, je revis ce rapport de pouvoir inégalitaire qui est structurel parce que dans mon couple ensemble, on n'a pas ce rapport de pouvoir inégalitaire, mais structurellement, c'est implanté. Fait que les institutions vont comme quand même nous projeter.
Puis même à l'école, c'est exactement,
c'est ça que j'avais demandé.
Moi, c'est exactement la même chose. Souvent, s'il y a un problème avec Yannick, on va appeler maman. C'est pas papa qu'on va appeler, c'est maman.
La répartitrice d'autobus m'appelle cette semaine parce qu'il y en a qui filaient pas, mais moi j'étais en route pour le cégep, j'étais pas du tout disponible. Mais il y avait le numéro aussi de Jessie dans le truc, mais c'est moi qu'on appelle, c'est sûr.
Tu aurais été plus disponible.
Ben oui, il était à la maison avec un autre enfant déjà malade.
Au niveau de l'éducation des enfants, comment votre identité trans, d'après vous, va influencer comment vous éduquez vos enfants? C'est une question très large.
Notre famille est beaucoup moins cis-normative, je pense, que des familles qui auraient des parents cis, tu sais. Parce que, tu sais, nous, Yannick, tu sais, si je dis on fait attention, on va dire la personne au lieu de dire le monsieur puis la madame, par exemple, quand on parle des gens, si on s'écoute parler, souvent on a tendance à dire le monsieur ou la madame ou à genrer les métiers. Fait que nous, on fait attention à ça. Je vais dire la personne, tu sais. Puis si des fois, ben, tu sais, du haut de mes 43 ans de socialisation dans l'hétéro-cis-normativité, je vais dire le monsieur ou la madame, elle va me dire, tu sais pas, maman.
Ça se revient contre toi.
Ouais, elle va m'avertir. Tu sais, je vois qu'elle a comme une sensibilité à ça.
Puis c'est beau.
Ouais.
Mais c'est comme quand on dit, tu sais, on essaye de dire les enfants et non les filles. Mais si à un moment donné on dit les filles, elle va répondre, elle va nous dire les enfants.
Ouais,
et puis, genre, elle comprend pas, tu sais, les événements où on...
Les gender reveals.
Elle les comprend pas, tu sais.
Ouais,
et elle dit, mais ils le savent pas. Ils peuvent pas répondre. C'est des bébés qui sont même pas sortis. On leur a pas demandé si c'était un garçon ou une fille, là. Ils peuvent pas le dire.
Puis quand, tu sais, j'ai dit, elle me demande sur quoi ils se basent pour faire ça, maman, les gender reveals. J'ai dit, ben, ils se basent s'ils ont vu une vulve et un pénis. Puis là, elle était comme, quoi?
Qu'est-ce que tu peux dire?
Ils disent à tout le monde que leur bébé a une vulve ou un pénis, puis elle était outrée de ça parce que pour elle, c'est intime.
Mais elle a quand même dit à toute sa classe que son père avait une vulve.
Ouais.
Ah. Elle est choquée, mais tu sais, c'est un enfant, voilà.
Bien sûr, j'adore.
C'est vrai qu'elle a fait ça. Mm-hmm. Ou elle pouvait crier à garderie, hein, parce que tu avais eu ton hystérectomie. Ouais. Elle avait dit à la garderie que papa y avait mal à la vulve. Fait que...
J'adore.
C'est spécial. Je veux dire aussi que Jessie est devenue un vraiment meilleur parent depuis qu'elle a fait sa transition. Ça a changé beaucoup sa parentalité. Elle a pris confiance en lui. T'sais. Puis c'est un bel exemple aussi pour Yannick et Milan. Mm-hmm. Yannick le dit aussi. Des fois, elle va dire, tu sais... Moi, je suis persévérante comme mon père. Oh. Parce qu'elle elle sait, elle comprend mm-hmm. qu'est-ce que ça demande. Elle commence à être assez grande pour comprendre ce que ça demande.
Puis, tu sais, quand j'ai commencé ma transition, moi, j'avais peur de tout perdre. Tu sais, Eliane, on en avait jasé. C'est elle qui m'a dit là, il va falloir qu'on parle. Je pense que c'est elle qui a mis
les
mots.
C'est moi qui l'ai hâté. C'était tellement fou comment qu'elle n'allait pas bien. Je faisais garder pour pas qu'il se suicide pendant que je n'étais pas là. Je savais plus quoi faire. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit « Mais tu penses pas que Jessie aurait une dysphorie de genre? » Puis là, ça l'a fait comme « Ah! » Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mm-hmm. Alors que si, je veux dire, j'étais impliquée dans le milieu.
J'étais trop dedans, vraiment, la face là, dedans.
Puis j'ai fait que c'est moi qui l'ai appelée.
On s'est parlé. Mm-hmm. Et puis elle m'a dit « Je te garantis pas qu'on va rester ensemble. » Qu'on s'était pas promis de rester ensemble, mais que Eliane m'a dit « Je vais t'épauler. » Dans mmh. toute ta transition, dans toutes les démarches, je vais t'épauler. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que les parents de Yannick aillent bien, tu sais, qu'on soit des bons parents, ensemble ou pas ensemble. Tant que si t'es bien dans ta peau,
c'est ça, c'est ça qui est important, l'issue.
Parce que tu seras un bon parent.
Je veux dire, qu'on soit ensemble ou pas, c'est un détail, là.
Toi, est-ce que tu te souviens que quand Eliane t'a appelé dans le parking?
Oh ouais, je m'en souviens.
Puis comment t'as réagi?
En fait, j'étais en crise d'anxiété. Et quand elle m'a dit ça, dans ma tête, c'était comme... C'est ma porte.
Mmh, parce que tu le savais.
Oui.
T'avais juste tellement peur de le dire. Puis de
j'avais peur de tout perdre.
Ouais, ouais.
Mais c'était ma porte.
Ouais.
C'est genre... C'est maintenant, tu j'ai juste répondu oui.
Ouais, c'est tout.
Mmh.
Puis après, quand je suis rentré à la maison, sur tout le chemin, je pensais à tout ce que j'allais pouvoir faire, tu sais. J'allais pouvoir faire ça, tu sais, pouvoir m'habiller, un homme peut-être vu comme un homme, d'avoir de la barbe peut-être, tu sais, c'était comme... Il y avait comme... La porte s'est ouverte.
T'avais le droit de rêver tout à coup.
Ouais.
Maintenant, comme là, ça va faire 5 ans,
ouais. Mm-hmm.
En février, puis c'est près de sa fête, excusez, mais c'est émouvant quand mm-hmm. même. Puis sur son gâteau de fête, on met pas son âge, on met... Comme là, il va avoir 5 ans. C'est comme une renaissance. Puis Jessie est tellement plus beau et plus intéressant depuis sa transition. C'est tellement une belle personne. Puis je veux dire, je suis privilégiée d'avoir été témoin de ça parce que j'étais aux côtés et je l'ai vu naître. Puis une partie de ça, j'étais enceinte en plus. C'était. Ouais. Fait que c'est. S'il y a des choses que je suis fière de ma famille, c'est qu'on a été une famille en transition puis qu'on l'ait vécu ensemble.
Magnifique entrevue. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Jessie et Eliane pour leur grande vulnérabilité au cours de notre entretien. Je suis convaincu que leur témoignage d'aujourd'hui contribuera à sensibiliser de nombreuses personnes à la cause trans et à faire comprendre à quel point nos parcours sont essentiels et magnifiques. Un grand merci à vous deux. Donc, un dernier merci à nos 3 familles qui ont participé à l'épisode d'aujourd'hui. Celle de Gabby Teagan, celle de Lux et celle de Jessie et Eliane. C'est difficile de choisir ce que je souhaite aux familles trans et non-binaires pour les 25 prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, nos droits semblent si fragiles. Avec la montée d'un discours anti-trans et l'instrumentalisation de nos identités de tous bords, tous côtés, j'ai pas envie de me projeter dans 25 ans, j'ai envie d'être fière et solide dans le présent.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, au même jour et à la même heure, pour la 2e partie de ce duo d'épisodes sur les réalités des parents trans et ou non-binaires. C'est un rendez-vous. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.